Dans cette deuxième séance, on veut parler des deux alliances. Donc, vous avez posé des questions et j'ai toute une heure de réponses. Dans la prochaine séance, après déjeuner, on va regarder le déroulement de l'alliance de la grâce. Donc là, on va regarder les deux amis de Dieu, les deux hommes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on va passer pas mal de temps ce matin juste avec l'alliance des œuvres pour justement introduire cette idée de l'alliance des œuvres et la situation avant la chute. Et ce qu'on va faire, c'est prendre plusieurs éléments différents qu'on voit dans les Écritures, dans la Genèse surtout, et puis on fera zoom arrière sur ces éléments pour qu'on voit ce qu'on a avec tous ces éléments. Avec chaque élément que je vais signaler, on doit se souvenir que la Bible est une seule parole de Dieu, et donc on va laisser les parties plus développées à la fin illuminer les parties plus tôt. Donc il faut interpréter la Bible par la Bible. Et donc si on voit des choses décrites de manière assez basique vers le début de la Bible, on verra si les parties plus tard nous expliquent ce qui suit. Donc allons-y alors. Le premier élément, c'est ce qu'on voit au tout début de la Bible, le ciel et la terre. Avec ce premier élément, on va devoir se poser une question. On sait que le monde, dans son état créé, au début, était très bon. Genèse 1:31, Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, il vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Mais la question que l'on doit se poser, c'est, y avait-il quelque chose de meilleur à venir? Est-ce que Dieu aurait pu faire mieux, c'est pas ça la question, mais est-ce que Dieu a fait exprès de créer le monde de façon à ce qu'il y avait encore meilleur à venir? Y avait-il la possibilité d'aller de très bon à parfait, à l'idéal absolu? Je vais dire oui, mais on va découvrir comment tout à l'heure. Donc, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce sont quoi le ciel et la terre? Dans le sens, c'est une phrase pour dire toute chose, mais de quoi s'agit-il? Alors, l'apôtre Paul nous indique comment il comprend ce verset avec un couplet dans la lettre aux Colossiens. Donc, c'est une partie un peu poétique de sa lettre, et on voit quand il parle de Jésus, il a dit le Fils a créé, il a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Et donc quand il parle de toute chose, il y a deux façons de parler de toute chose. Il y a les cieux et la terre, et visible et invisible. Et donc par une sorte de chiasme, on peut prendre que lorsqu'il dit cieux, il parle de ce qui est invisible, et quand il dit terre, il parle de ce qui est visible. Selon Paul, et surtout selon l'Esprit-Saint, l'auteur de la Genèse et Colossiens, lorsque Moïse a dit terre, il parlait de la dimension visible de la création. Et quand il a dit ciel, il parlait d'une dimension invisible. Le ciel, dans le verset 1, ce n'est pas le ciel visible qu'on voit dans la création. Le ciel visible arrive le deuxième jour. Dieu appela l'étendue ciel, puis le deuxième jour. Donc, il y a le ciel visible qui a été nommé après le ciel invisible, pour qu'on pense que ce qui est invisible, c'est un peu au-dessus de nous. Mais il y a quand même une différence entre le ciel invisible et le ciel visible. Au début de la Bible, Dieu crée un monde divisé en deux. Ciel invisible, terre visible. Et le ciel ou les cieux, c'est la résidence des anges, la demeure des anges, les armées de Dieu, ce sont les anges, donc on voit en Néhémie 9, 6, c'est toi Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, donc c'est la demeure des anges. C'est également la demeure de Dieu, le ciel, notre Dieu est au ciel. C'est le lieu dans la création où il a choisi d'être particulièrement présent. Il y a une dimension invisible dans la création. Dieu est partout et en tout parce qu'il est Dieu, il est infini. Mais Dieu a choisi de vivre en particulier dans une dimension invisible qu'il a appelée le ciel. Notre Dieu est au ciel. C'est là où il est particulièrement présent. Donc on a deux demeures distinctes au commencement. Le ciel, la demeure de Dieu et les anges. La terre, que Dieu a créée comme une demeure pour l'homme. Toute la création est très bonne, bien sûr. Il n'y a rien de mal dans cette création, mais ça ne veut pas forcément dire que la création est parfaite dans son état vraiment complété. Est-ce l'idéal absolu? Est-ce qu'il reste quelque chose d'encore meilleur que cela? Et pour répondre à cette question, on va faire un saut à la fin de toute chose, dans Apocalypse 21. Qu'est-ce que visait Dieu au début? Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc on voit en fait une unification des deux demeures à la fin. Au début, c'était deux demeures distinctes. Et l'objectif, la fin, c'est que les deux demeures soient unies. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc, langage d'alliance, souvenons-nous. Le tabernacle ou la demeure de Dieu est avec les hommes. Avant, on a la demeure de Dieu et la demeure des hommes. Et la fin, l'objectif, c'est que les deux demeures soient la même demeure. La demeure de Dieu est avec les hommes. L'idéal absolu, c'est que ces deux demeures soient unies. Le monde invisible devienne visible. On ne vit plus par la foi, mais par la vue. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, même au premier verset de la Bible, on a quelque chose de très bon. La création était très bon, mais pas encore dans l'état absolument idéal. Les deux demeures sont séparées. Donc voici notre premier élément qu'on veut juste garder. Donc on va mettre à côté pour l'instant et on va regarder ça plus tard. Deuxième élément, l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu a placé l'homme dans le monde visible et Dieu a créé l'homme à son image. Et bien sûr, il y a beaucoup de débats, des discussions au cours des siècles sur l'idée de l'image de Dieu. Et parmi les caractéristiques qu'on peut identifier, il y a trois en particulier qu'on peut souligner, que le petit catéchisme de Westminster souligne. La dixième question souligne, quand on parle de l'image de Dieu, connaissance, justice et sainteté. Et ça, c'est basé sur le Nouveau Testament où il parle du fait que les chrétiens sont recréés dans l'image du Christ, dans l'image de Dieu, en Colossiens, en pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, et en Éphésiens, une justice et une sainteté. Et donc, l'image de Dieu comprend en particulier connaissance, justice et sainteté. Plein d'autres choses aussi, mais vraiment ça en particulier, le sens vraiment restreint de l'image. Et si on parle de connaissance, c'est pas juste qu'on sait des choses, mais vraiment connaissance dans le sens biblique de connaître Dieu, vraiment être dans une relation avec Dieu. Et donc le théologien réformé néerlandais Vos, Gerhardus Vos, a dit ceci. Le fait que l'homme porte l'image de Dieu signifie beaucoup plus que le fait d'être esprit et de posséder compréhension, volonté, etc. Il signifie avant tout qu'il est disposé à la communion avec Dieu, que toutes les capacités de son âme ne peuvent agir d'une manière qui corresponde à leur destin que s'il se repose en Dieu. Si on est disposé à la communion avec lui, dans un sens, c'est parce que même dans notre création, Dieu nous préparait à vivre en alliance avec lui. Et c'est pour cela que nous savons que nous lui devons obéissance, comme on a vu dans la confession de Westminster, dans le septième chapitre. Et donc, on lui doit obéissance. Et ce n'est pas pour rien que dans la généalogie de Jésus, Adam est appelé fils de Dieu. Il a été créé en relation avec Dieu. Et donc, on voit que le fait d'être créé à son image veut dire qu'on est disposé à la communion avec lui. Et donc, on sait qu'on lui doit obéissance, on sait qu'on on est créé en relation avec lui. Mais si nous voulons savoir comment cela peut se vivre, comment vivre en communion avec lui, il faut que Dieu s'accommode à nous, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, Dieu a choisi de faire cela par le moyen d'alliance. Donc, on a été créé pour la communion. Si je veux savoir comment vivre en communion avec Dieu, il faut que Dieu révèle comment faire ça, et c'est par l'alliance qu'il choisit de faire cela. Donc, voici le deuxième élément. Donc, on a vu ciel et la terre, image de Dieu. Donc, encore un élément pour construire ce qu'on a. Le sabbat. Troisième élément, le sabbat. Le septième jour de l'œuvre que Dieu avait faite était achevé et se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Genèse 2. Au niveau du ciel, dans la dimension du ciel, Dieu a complété son œuvre. Tout est fini. Il a achevé son travail de six jours, et puis il est entré dans son repos à lui. Et il appelle, partout dans la Bible, il parle de le repos de Dieu, son repos. Il est entré dans son repos. Avec ce septième jour, il est très différent des autres jours. On n'entend pas la fin du septième jour. Il entre dans le septième jour, et c'est ça. Tout est accompli. Dieu est entré dans son repos. Et on voit que tout comme l'idéal, c'est que les deux demeures soient unies, l'idéal aussi, c'est que l'homme entre aussi dans le repos de Dieu. Donc, une façon de parler de la situation idéale, c'est l'unification des deux demeures. Une autre façon de parler de la situation idéale, c'est que l'homme puisse entrer dans le repos de Dieu avec Dieu. Dans le psaume 95, on voit Dieu qui dit « C'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voix, aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Une façon de parler du salut, c'est le fait d'entrer dans le repos de Dieu. Ici, c'est le côté négatif. Le jugement, c'est de ne pas entrer dans le repos de Dieu. Mais ça veut dire que...
I'm not sure I understand.
C'est pas avec toi que je parlais. Donc, je ne sais pas comment gérer ça, mais bon. Peut-être vous sentez la même chose, je ne sais pas. Mais bon, si... Le fait de ne pas entrer dans le repos de Dieu, c'est le jugement. Le salut, c'est le fait d'entrer dans le repos de Dieu. Comme on voit également dans Hébreux. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, il y a la possibilité d'entrer dans le repos de Dieu, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit. Donc il cite le psaume 95. Et puis au verset 9 et 10. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Le fait d'être entré dans la terre promise était une forme de sabbat, mais ce n'était pas le sabbat. C'était quelque chose qui représentait, qui communiquait du repos, mais ce n'était pas le repos le repos à venir. Il y a un sabbat qui reste. Il reste donc un sabbat pour le peuple de Dieu qu'on n'a pas encore vécu, qui attend encore. Et donc la question, c'est comment l'homme pourra-t-il entrer dans le sabbat, dans le repos de Dieu? Dieu a fait une œuvre et ensuite il est entré dans son sabbat. Quelle est l'œuvre que Dieu va demander de l'homme pour qu'il puisse entrer dans son repos? Dieu a fait une œuvre et puis il est entré dans le repos. Quelle est l'œuvre que l'homme doit accomplir pour qu'il puisse entrer dans ce même repos, pour que les deux demeures puissent être unies? Voici les trois éléments, voilà. Quatrième élément, on a le jardin. Donc, dans Genèse 2, l'Éternel forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital, souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est quoi ce jardin? C'est pas juste un petit jardin sympa derrière une maison. C'est quelque chose que Dieu a construit. Il a planté un jardin lui-même, Dieu. Et dans Ézéchiel, il parle de ce jardin d'Éden. Éden, le jardin de Dieu. Donc c'est un lieu particulièrement divin. Et c'est la montagne de Dieu. C'est un jardin sur une montagne. Et dans la Bible, quand on voit montagne, on devrait penser temple. Les montagnes, c'est là où il y a des lieux saints, et surtout les temples, ou les lieux où Dieu établit une demeure. Donc, la montagne de Dieu, le jardin de Dieu, c'était une espèce de temple, dans un sens. C'est un jardin-temple. Dans l'Apocalypse, on voit que le temple, la ville qui est invisible, ressemble à ça. Il me montrait la fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ce jardin d'Éden ressemble à ce qui descend du ciel. Donc les descriptions qu'on lit par rapport à Éden ressemblent beaucoup à cette ville. Ce n'est pas complètement comme ça. La ville qui descend est encore plus merveilleuse. Mais ça ressemble un peu à cette ville qui va descendre. Et donc, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, se trouve l'arbre de vie qu'on voit dans le jardin d'Éden, qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois, etc. C'est un jardin qui ressemble à la ville qui descend du ciel, la demeure de Dieu. Ce jardin, la montagne de Dieu, le jardin de Dieu, ressemble, représente, symbolise la demeure de Dieu qu'on veut voir unie avec la création visible. Et le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Et donc Dieu est présent dans cette ville que le jardin ressemble. Auquel, oui, là. Donc le jardin représente et symbolise la demeure céleste de Dieu, tout comme le feront le tabernacle et ensuite le temple plus tard. Donc on a le ciel et la terre, l'image de Dieu, le sabbat, le jardin-temple. Donc voici quelques éléments qu'on a déjà. Cinquième élément, menace. Au commencement, on voit quelques menaces. Il y a des éléments qui font un peu menace. Ou pour dire autrement, il y a la possibilité que les choses dégradent carrément. Il y a des choses qui suggèrent que ça pourrait changer, que ce n'est pas permanent. Il y a la possibilité que ça dégrade. Au verset 8 de Genèse 2, on apprend la présence dans ce jardin, qui est très bon, d'un arbre de la connaissance du bien et du mal. Il semble qu'il y a une possibilité de mal. Dans ce jardin très bon, il y a un arbre nommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est un peu bizarre dans un jardin très bon. Il y a une menace dans le sens qu'il existe la possibilité qu'Adam meure. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam est innocent, c'est très bon, mais pour Adam, il existe une possibilité pour lui qu'il meure. Puis on a la présence assez malsaine dans le jardin d'un serpent. De manière générale, les serpents, c'est horrible. Mais ce serpent en particulier, on a quelqu'un qui vient et qui voudrait s'opposer à la parole de Dieu. Donc il y a des éléments au commencement, il y a des menaces, il y a la possibilité que les choses dégradent. Donc il y a ce serpent qui voudrait s'opposer à la parole de Dieu. Donc voici des éléments qu'on veut tout mettre ensemble. C'est donc dans ce contexte-là qu'on est prêt à regarder ce que dit Dieu à Adam. Et donc, on va regarder l'alliance, les œuvres. D'abord, il y a peut-être certains qui disent, on ne voit pas le mot alliance dans Genèse, dans ses premiers chapitres, pour décrire ce qui se passe. Et c'est vrai. Mais nous voyons tous les éléments d'une alliance, y compris l'arbre de la vie donné comme signe et sceau de l'alliance. Mais aussi, même si la Genèse n'appelle pas ce qui se passe une alliance, Dieu le fait quand même ailleurs par le prophète Osée. Dans Osée 6, 7, comme Adam, ils ont enfreint l'alliance. Donc Dieu parle de son peuple, Israël, qui a enfreint l'alliance. Et il dit ça, tout cela, ils ont fait cela tout comme Adam, qui lui est aussi enfreint, a enfreint l'alliance. Certaines traductions traduisent ces mots comme Adam avec à la façon des hommes, mais ce n'est pas ça. Le peuple a brisé l'alliance tout comme Adam l'a fait lui aussi. Le briseur d'alliance par excellence. Et pour lui, c'est encore plus sérieux parce que c'est lui le représentant. Et donc, si on regarde la structure d'alliance qu'on a regardée tout à l'heure, on peut organiser tous ces éléments qu'on a déjà vus comme ceci. Donc, on a quelques éléments. Voilà, donc, ils ont été créés à son image. Donc, il y a déjà ça, une grâce ou une faveur montrée envers l'homme. Ils ont été créés, disposés à la communion avec lui. Ils ont été placés dans ce jardin-temple, ce lieu qui représente la présence de Dieu, un lieu de rencontre avec Dieu. Il y a la possibilité de bénédiction, il y a la possibilité de l'unification des demeures, il y a la possibilité d'entrer dans le sabbat, il y a la possibilité de vie, et c'est-à-dire de perdre la possibilité de la mort, la possibilité de vivre sans jamais être menacé par la mort ou le péché, mais il y a aussi la possibilité de la mort et du mal. Donc on voit la faveur, l'homme créé à son image, placé dans le jardin, il y a une bénédiction possible, plusieurs bénédictions possibles, il y a une malédiction possible, la mort. Quelle est la loi alors? Quelle est l'œuvre exigée pour qu'Adam puisse recevoir la bénédiction? Pour que la possibilité disparaisse, possibilité de la mort disparaisse, ainsi que la possibilité du péché. On peut le dire en plusieurs façons. Donc, d'abord, Genèse 1, 28. De manière générale, il y a l'appel de remplir et de soumettre la terre, de rendre le reste de la terre comme le jardin, d'éteindre les frontières pour que la demeure soit partout, pour que toute la terre puisse être comme le jardin de Dieu, puisse être le lieu de la présence de Dieu. Donc, soumettez la terre pour qu'il puisse faire partie de ce jardin. Et donc, multipliez-vous et remplissez la terre. Puis également, c'est un peu général, mais c'est important, il y a la mission d'Adam dans le jardin même, de cultiver et de garder. Et il y a ce paire de mots, traduit ici « cultiver » et « garder ». Dans d'autres contextes, ils peuvent être traduits « servir » et « garder » ou « servir » et « protéger » même. Ce sont les deux mots qui s'utilisent toujours pour décrire la mission d'un prêtre. « Servir » et « garder » ou « protéger ». Protéger contre quoi? Il y a un serpent qui arrive. Et donc Adam va être mis à l'épreuve avec la présence de ce serpent. Et donc, il aurait dû jeter le serpent dehors. Il aurait dû protéger le temple, purifier le temple, vraiment tuer le serpent lui-même, jeter dehors pour protéger, mais il n'a pas fait ça. Et donc, puisqu'il y a le serpent qui arrive, en fait, l'épreuve, cette loi, va être focalisée sur une chose en particulier. Tous les autres commandements qu'il a reçu, ce sont des bonnes choses en eux-mêmes. C'est bien de remplir la terre et de la soumettre, et c'est bien de cultiver et de garder le jardin. Mais Adam va recevoir un commandement qui va le mettre à l'épreuve et qui va mettre à l'épreuve son désir d'obéir à Dieu juste parce qu'il veut servir Dieu, juste parce qu'il préfère servir Dieu que faire autre chose. et bien sûr, c'est le fait de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ça, c'est, genre, c'est juste un arbre. Tous les autres arbres, tu peux manger, c'est bon, mais il y a juste un arbre qui n'est pas si différent que ça que des autres, mais juste celui-là, tu ne peux pas manger. Ça met à l'épreuve le désir d'Adam, juste de faire ce que Dieu a dit, même s'il ne voit pas de raison forcément qui fait en sorte que c'est bien ou mal, juste que Dieu a dit et donc obéit à Dieu. Et donc c'est ça vraiment la preuve que Dieu donne à Adam. Donc il faut qu'il ne fasse pas ça. Et surtout, lorsque le serpent vient. Donc, lorsque le serpent vient, est-ce que tu vas écouter ou pas? Est-ce que tu vas obéir au serpent ou est-ce que tu vas jeter le serpent dehors pour garder le jardin, pour protéger le jardin? Donc, voici la loi demandée d'Adam, de remplir et soumettre la terre de manière générale. Je n'ai pas mis, mais il y a également juste, il y a les ordonnances de Dieu. Donc, il y a quand même le jour du sabbat, le septième jour, qu'il doit respecter de façon générale. Donc, même s'il n'est pas entré dans le repos, il devrait se reposer le septième jour. Il y a le mariage qu'il a institué, il devrait respecter le mariage. Il y a le travail, il doit travailler les six jours et pas le septième, etc. Donc, il y a des ordonnances de création qu'il doit respecter. Mais surtout, remplir et soumettre, servir et garder. Mais vraiment, surtout, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, avoir la bonne réaction au serpent, en gros, lorsque le serpent arrive. Donc, c'est ça la structure de cette alliance des œuvres. Donc, on pourrait le schématiser comme ça. Donc, la faveur, la loi, et la bénédiction et la malédiction. Et notez comment le fait d'être en communion avec Dieu est vraiment au cœur de la relation que Dieu a établie avec Adam, avec toute l'humanité en lui. Il y a le fait qu'il est créé en son image, il est disposé à la communion avec lui. Le fait de remplir et soumettre, ça veut dire faire de toute la terre le lieu de la présence de Dieu, le lieu de rencontre avec Dieu. Et le fait qu'il soit dans le temple aussi, il est dans la présence de Dieu. Et puis le fait de servir et garder, ça lui rappelle aussi que c'est un temple. Et donc, ça parle de la présence de Dieu. Quand on voit temple, on doit toujours penser à la présence de Dieu et la communion avec lui. Et puis, il y a la possibilité de l'unification des demeures à la fin. Donc, vivre avec Dieu, Dieu qui habite parmi son peuple. Donc là, il y a l'idée de communion avec Dieu qui est vraiment au cœur de cette alliance. Comme j'ai cité, le principe Immanuel de Pamela Robertson, Dieu parmi nous, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. C'est ça le principe au cœur de l'alliance. Donc voici les éléments qu'on peut mettre ensemble. C'est donc dans ce contexte-là qu'on est prêt à regarder ce qui suit la chute. Adam a choisi de désobéir à Dieu. Il a fait ce qui a mérité la malédiction, la mort. Il a brisé l'alliance. Il a choisi le chemin qui mène à la mort. Donc le premier représentant, le premier ami de Dieu, le premier des deux amis, a choisi de désobéir à Dieu. Et donc il perd la possibilité de cette bénédiction. Il est maintenant impossible d'obtenir cette bénédiction si on est représenté par Adam. C'est complètement impossible maintenant. Si on est représenté par Adam, on ne peut que mourir. L'alliance des œuvres est brisée, c'est fini. Tout être qui est descendu d'Adam, c'est-à-dire tout être humain, dans un sens, est dans cette alliance, et donc a la malédiction qui va venir. Parce qu'ils sont représentés par Adam. Et donc, dans le petit catéchisme qu'on a étudié l'année dernière, on a vu cette question. La première description de la misère de cet état déchu, c'est le fait de perdre la communion avec Dieu. Par la chute, toute l'humanité a perdu la communion avec Dieu. Il y a plein de choses, il y a la colère, la malédiction, les misères de cette vie, les maladies, etc. Et la mort et les peines de l'enfer pour toujours. Mais vraiment, la chose qu'on a perdue avec le péché d'Adam, c'est la communion avec Dieu. Et donc Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitant qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie à manger et vivre éternellement. Et donc, pour faire cela, Dieu, l'éternel Dieu, le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Donc, il perd l'accès au signe d'alliance des œuvres. Il y avait une signe de cette promesse, l'arbre de la vie. Et donc, puisqu'il a brisé l'alliance, il perd accès à cette signe de l'alliance qui représentait la promesse de vie éternelle dans la présence de Dieu, dans le jardin. Et donc, comme cela, par le fait d'être renvoyé, jeté dehors de ce lieu qui représentait la présence de Dieu, il est littéralement excommunié de Dieu. Il a plus accès au gage de cette alliance, et donc il ne peut pas être dans le lieu de Dieu. Il perd la communion avec Dieu. Il n'est plus dans le lieu de rencontre avec Dieu. Il n'est plus sur la montagne de Dieu. Mais tout de suite, il y a l'alliance de la grâce. Mais vraiment tout de suite. Donc l'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Voici la première annonce de l'Évangile dans Genèse 3:15. Qu'on va étudier tout à l'heure. Donc voici la promesse de l'alliance de la grâce. L'inimitié entre le serpent et la femme, et le fait que le serpent sera écrasé la tête, et puis la descendance de la femme écrasée le talon. Et puis il dit à la femme, et donc déjà le fait qu'il a dit quelque chose à la femme, c'est-à-dire, il n'a pas tué la femme, il a dit quelque chose à la femme. Je rendrai tes grossesses très pénibles. Alors, ça c'est négatif. Mais il y a quand même des grossesses, c'est-à-dire, il y a des enfants qui arrivent. Ils sont pénibles. Mais...
Les enfants, tiens.
les enfants et les grossesses seront pénibles. Mais il y en aura quand même. Elles ne meurent pas tout de suite. Il y a la possibilité d'enfant. Avec peine, oui, mais tu accoucheras. Il y a quand même la vie. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, encore, il ne tue pas l'homme. Il lui parle. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. Oui, avec peine, mais il aura mangé. Tous les jours de ta vie, il y aurait d'autres jours de sa vie. Il te produira des chardons et des broussailles et tu mangeras l'herbe de la campagne. Donc, il va quand même manger ça. Il va manger son pain aussi, par la sueur de son visage, mais il va quand même manger. Donc, il est sous la malédiction, mais il y a quand même la possibilité. Il va vivre encore jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, etc. Donc il va mourir, il va souffrir parce qu'il a brisé l'alliance. Mais il y a une autre alliance qui vient, qui fait en sorte qu'il peut rester en vie. Et avec la promesse de cette semence qui va souffrir et le sacrifice d'un animal, on voit que Dieu a décidé que ce sera le sang d'un autre qui va payer pour ce péché. Donc la malédiction va tomber sur un autre pour que l'homme puisse être sauvé et pour que la communion puisse être rétablie avec lui. Donc il fait ses vêtements pour couvrir la honte d'Adam. Et donc voilà, on voit l'alliance de la grâce. Il est encore en vie, il n'a pas été tué. Il aura des enfants, il aura à manger. Il y a la promesse de la semence, la descendance de la femme qui va écraser le serpent. Il y a le pardon, il y a des vêtements. Donc un animal est mort pour donner des vêtements. Il y a encore cette loi de remplir et soumettre, respecter les ordonnances, etc. Et donc, il y a la bénédiction qui attend l'inimitié avec les serpents. Et qui dit inimitié avec les serpents dit amitié avec Dieu et la vie. Et mais si on ne croit pas ça, il y a la mort. Donc, Adam, le premier ami de Dieu, le premier homme en communion avec Dieu, a décidé de briser cette première alliance en tant que représentant. Mais il y a la promesse de quelqu'un qui rendra possible l'inimitié avec le serpent et l'amitié avec Dieu. Bien évidemment, comme Luc 3 nous dit, le fils d'Adam, fils de Dieu, c'est bien sûr Jésus-Christ, le deuxième Adam. Et c'est lui qu'on va étudier dans la prochaine séance. Donc, voici le premier homme, le premier représentant. L'autre représentant, là, il est révélé juste comme la descendance de la femme. Donc, on n'a pas beaucoup de détails. On sait qu'il y a une descendance de la femme. Et donc, il y a la possibilité d'être sauvé, plus jamais par Adam. Il est plus possible de voir l'unification des demeures, le sabbat, le repos, le fait d'être en communion avec Dieu. Ce n'est plus possible par Adam. Ça, c'est complètement fini. Et donc, il faut un autre homme par lequel on peut obtenir ces choses-là.